hors champ. Bonsoir à toutes et à tous, hors champ en compagnie ce soir de Valérie Zenati. Valérie, vous êtes à la fois écrivain, écrivain de livres pour adultes, de livres pour enfants. Vous êtes aussi cinéaste. Vous avez un parcours extrêmement singulier qui a nourri d'ailleurs votre œuvre littéraire, romanesque et cinématographique, parce que vous êtes née à Nice en 1970 et puis en 83. Donc, à l'âge de 13 ans, âge compliqué de l'adolescence, vos parents décident d'aller immigrer en Israël. Pourquoi ?
Oh, je crois que c'est une question à laquelle eux-mêmes auraient peut-être du mal à répondre, finalement, parce que c'est une décision peu banale. Enfin, en apparence, on va dire, ils ont fait ce choix parce qu'ils avaient, je crois, beaucoup d'intérêt pour ce qui se passait en Israël. C'était un État tout jeune, il y avait encore cet émerveillement de la création de cet État en 48, hein, quand mes parents sont partis, Israël avait 35 ans à peine. Donc, je crois qu'ils avaient envie de participer à cette aventure de création ou de construction d'un État. Au-delà de ça, je crois qu'il était question quand même pour eux de trouver leur place, parce que ce sont tous les deux des Juifs d'Algérie qui sont arrivés en France en 1962, qui se sentaient bien en France et en même temps qui avaient peut-être le sentiment de ne pas être tout à fait ici, chez eux, ou de ne pas être d'ici en tout cas.
Comment fait-on quand on est plus ou moins bien intégré dans la société française, en tout cas qu'on a un métier, qu'on a des enfants, pour tout quitter et essayer de se trouver une place dans Israël?
Je pense qu'il y a une forme d'inconscience et de foi aussi, beaucoup de foi. Mes parents sont tous deux croyants et pratiquants. Moi, j'ai ensuite profité de l'adolescence pour un peu remettre en question tout ça, mais eux sont tous deux croyants et pratiquants. Et je crois que la foi, c'est quelque chose qui les a apportés. Ils avaient envie, finalement, de vivre dans un pays où pratiquer, faire Shabbat, n'était pas très compliqué. Et pour eux, c'était, je crois, un objectif qui les soutenait. Donc, ça les a soutenus. Pourtant, ça n'a pas été facile. Hein. Ce n'est pas quelque chose qui a été vécu de façon idyllique. Pas du tout. La réalité était difficile. Mais ils étaient soutenus par leur foi et leur désir de vivre dans ce pays.
Comment on fait à partir du moment où on est d'origine juive, où on est croyant, où on décide de partir en Israël pour se trouver un endroit pour vivre? Vous, c'était le désert de Beersheba. Et quand vous en parlez, dans ce livre magnifique qui s'intitule « Quand j'étais soldate », où vous racontez votre expérience militaire, on y reviendra, vous n'êtes pas tellement éblouie lors de votre arrivée en Israël. Vous écrivez « Nous habitons à Beersheba, une ville de 100 000 habitants plantée dans le désert du Negev en Israël. Vue du ciel, la ville ressemble à Atlanta, le bâtiment de CNN et le stade olympique en moins. Des cubes gris posés sur le sable gris. Celui qui imagine qu'un désert est forcément une étendue de sable blanc et fin avec de temps à autre une petite oasis fraîche possède un imaginaire de dessins animés. C'est tant mieux pour lui et je l'envie. »
Oui, c'est vrai qu'on a...
Chute ! Sentiment de chute et de perdition.
Oui, oui, oui. Oui, c'est vrai que pour moi, l'arrivée en Israël a été un vrai choc esthétique, je dirais d'abord. Et ensuite, linguistique.
Pourquoi c'est moche ?
Enfin, moi, c'est un pays que j'aime énormément, qui me fascine, où je me sens bien, et en même temps, qui n'est pas très beau. Alors, bien sûr, on peut trouver des images de cartes postales, on peut aller à Jérusalem, dans certaines rues de Tel Aviv, mais dans l'ensemble, ce pays qui a été construit à la hâte dans les années 50 est un pays où les qualités esthétiques ne sont pas très nombreuses. Moi, j'arrivais de Nice, qui est tout de même une jolie ville au bord de la mer, et je me retrouvais dans ce désert où, où les poubelles étaient en plein air dans la rue, les chats, des chats faméliques marchaient entre les poubelles, et le soleil écrasait tout ça d'une lumière qui est vraiment trop violente pour exalter une quelconque beauté, et je trouvais ça rude. Alors, ça peut paraître très négatif, mais j'ai appris en Israël que la laideur aussi nous racontait quelque chose et qu'il n'y avait pas que la beauté pour nous nourrir en quelque sorte.
C'est-à-dire ?
Je pense que la laideur nous donne envie et stimulante d'une certaine manière. Elle ouvre à la complexité, c'est-à-dire qu'à l'intérieur de cette laideur, il y a toujours un petit coin de beauté. Et en le cherchant, le décelant, on a accès peut-être à une beauté plus juste. Moi, en Israël, quand je sortais de chez moi, il y avait en face de la maison de mes parents un grand terrain vague. Et qui était évidemment très, très moche, avec des ronces, des cailloux, des carcasses de voitures. Et il fallait traverser ce terrain vague pour aller à l'hôtel où se trouvait une piscine et où j'allais nager régulièrement. Et donc, je traversais ce terrain vague. Et puis, en arrivant à l'hôtel, je m'arrangeais toujours pour passer par un angle où je voyais deux palmiers qui étaient faisait face à l'hôtel. Et en regardant ces deux palmiers à partir de l'angle où j'étais, j'imaginais que j'étais à Cannes. Et je me transportais, mais c'était à partir d'un angle très précis du terrain vague, entre le terrain vague et l'hôtel. Et pendant des années, j'ai cherché vraiment au millimètre près l'endroit où, en cadrant d'une certaine manière mon regard, je pouvais me dire, là, je ne suis plus à Beersheba, je suis à Cannes. Et je crois que pour le coup, ces années-là, j'en garde absolument pas un mauvais souvenir, même si, encore une fois, j'avais le sentiment que le monde, c'était bien autre chose que Beersheba. J'en garde pas un mauvais souvenir parce que, dans ces années-là, je cherchais la beauté partout où elle se trouvait. Évidemment, dans les livres, en premier lieu, quand même.
Quel livre ?
Moi, j'étais une grande lectrice avant de quitter la France. En arrivant en Israël, j'ai pu m'inscrire, j'ai eu la chance d'être dans une ville paumée, mais où il y avait malgré tout un centre culturel français, avec une bibliothèque et une vieille dame adorable. J'ai retrouvé un petit peu la sensation de cette période. Un jour, je fais une parenthèse en lisant le livre « Mes démons » d'Edgar Morin, où il disait que l'adolescence pouvait être cette période où on lisait sans hiérarchie. En tout cas, lui avait connu ça. Et moi, j'ai totalement connu ça parce que je n'avais pas de maître pour me guider. Mes parents, mon père était un grand lecteur, mais c'était très précis. Lui, il lisait San Antonio et de la science-fiction. Donc, j'ai lu aussi.
Et la Bible.
Et la Bible, et tous le les samedis. Alors, peut-être pas le Talmud, mais la Bible, oui. La Bible, c'est un livre, effectivement, avec lequel on vit en famille depuis toujours. Mais il avait ces lectures-là, San Antonio et des livres de science-fiction. Donc, j'ai tout dévoré aussi, mais personne ne me disait « ça c'est bien, ça il faut lire, ça c'est un grand auteur ». Donc j'allais à la bibliothèque et je prenais tout ce qui me tombait sous la main. Et ce qui est quand même assez intéressant, c'est que finalement les livres qui sont restés sont des grands livres, mais je ne le savais pas à l'époque. C'est-à-dire que je prenais, il y avait des romans qui étaient, je pense, des romans à l'eau de rose et que je prenais du plaisir à lire. Et puis un jour, je suis tombée sur L'étranger de Camus. Et là, j'ai eu comme ça des émotions, une émotion très forte en me disant, on peut écrire comme ça. C'était la première fois que je lisais une écriture blanche. Et puis ensuite, il y a eu Romain Gary, il y a eu Duras. Et à chaque fois, c'était au hasard de ces moments que je passais à la bibliothèque. Et je prenais un livre, je l'ouvrais et puis je l'embarquais. Pour le coup, ce sont des années de lecture très, très, très intenses et riches et donc belles. Pour moi, ce sont des belles années, entre autres parce que je lisais beaucoup.
La lecture, Valérie Zenati, a été la construction de votre identité. Vous êtes aussi traductrice d'un des plus grands écrivains israéliens qui s'appelle Aaron Appelfeld. Je vous propose d'écouter la voix d'un autre très grand écrivain israélien qui est aussi un témoin de son temps et un acteur engagé pour la paix. Il s'agit d'Abraham Yoshua.
Laïque et religieuse, c'est une question fondamentale et structurelle de l'identité juive et ça va durer pour l'éternité. Mais le problème est comment on fera un nouveau status quo entre ces deux parties. Puis il y a aussi évidemment la question des Ouest-Est, les séfarades et l'Ashkenaz, et puis il y a les Russes, il y a quand même des amalgames, des différentes communautés. Nous sommes un pays qui est issu de 70 pays et de civilisations tout à fait différentes d'un l'autre. Alors, l'ennemi extérieur nous avait aidé jusqu'à maintenant de vivre en paix. Mm. Et il faut savoir que pendant 120 ans de sionisme, il y avait peut-être 20 juifs seulement qui ont été tués par juifs à cause des raisons idéologiques. Et ce n'est pas beaucoup. Si vous regardez l'Espagne, si vous regardez la Grèce, si vous regardez même la Révolution française, si vous regardez tout cela, pendant ces 50 ans, il y avait seulement 3 juifs qui ont été tués par des juifs à cause des raisons idéologiques. Alors finalement, on a vraiment, avec toutes nos divergences, on pouvait établir cette paix mais, intérieure. Mais maintenant...
Mais d'où vient votre crainte? Parce que justement, si on regarde votre roman, Le Voyage vers l'an 1000, on se rend compte que cette plongée dans l'histoire, vous la faites précisément sur cette ligne de discours entre les laïcs et les religieux, entre les séfarades et les escalades.
Oui.
Bon, et jusqu'à, ça a tenu le coup jusqu'ici.
Oui, mais regardez, jusqu'à maintenant, nous avons fait ce dialogue, ces négociations entre des différents codes religieux, dans la religion elle-même, entre Est et Ouest, entre Sud et Nord. Tout cela a été fait librement, librement, parce que les Juifs vivaient dans la diaspora librement des autres Juifs. Ça, nous étions soumis à la domination des non-Juifs, mais entre nous, nous étions libres. Et un Juif ne pouvait pas tuer un Juif, et un Juif ne pouvait pas envoyer un Juif en prison, un Juif ne pouvait pas imposer sur un autre Juif tel et tel code. Alors, dans la diaspora, et c'est pour cela que nous avons choisi la diaspora, parce que nous avons eu peur de cette tension intérieure, alors nous avons vécu dans une réalité non-juive pour être libre d'un l'autre. Maintenant, nous sommes dans un état dans lequel on peut imposer, dans lequel on peut envoyer quelqu'un à la guerre. On peut dire, ça sera la définition d'un juif et ça ne sera pas la définition d'un juif. Et ça pose un problème.
Mais c'est la première fois que cette question vous est posée avec une telle acuité, qu'il y a véritablement un risque de rupture entre les uns et les autres.
Oui, qu'il y a des divergences qui seront, et puis que la société israélienne va être créée en enclave. Ça me gêne énormément, parce que c'est un petit pays. Vous êtes dans un pays centraliste. Vous ne pouvez pas comment vous êtes quand même dirigé vers une centre qui est très très fort. Pour nous, dans un petit tout petit, de créer des ghettos, des ghettos religieux, des ghettos séfarades, des ghettos arabes, parce qu'il y a des arabes israéliens aussi, et des ghettos laïcs. Tout cela, des ghettos, ça ce n'est pas une culture pluraliste. Culture pluraliste, pour moi, c'est toujours des dialogues et d'essayer d'influencer un l'autre. Et pas que chacun va avoir son petit ghetto dans lequel il va se fermer.
C'était Abraham Yehoshua au micro de Stéphane Paoli en novembre 1998. Et la situation ne fait qu'empirer. Effectivement, la société israélienne est une société fragmentée en différents clans, différentes communautés. Elle-même, à l'intérieur de la communauté juive. Et puis, il y a aussi... évidemment, la difficile et douloureuse coexistence avec les Palestiniens. Vous, Valérie Zenati, vous vivez en France, mais vous faites sans arrêt le va-et-vient entre Israël et la France. Vous faites partie de cette génération, autrefois on disait les Sabras, cette jeune génération qui avait participé à cet élan nouveau de cet Israël qui se construisait. Dans vos livres, on voit bien que le problème des identités multiples est au cœur de votre questionnement, à la fois théorique et politique. Comment ressentez-vous cette montée en puissance des différentes communautés du côté juif?
J'ai l'impression que, effectivement, Israël ne vit absolument pas la période la plus calme et tranquille de son histoire. Je ne sais pas s'il y en aura une un jour. Ce que je sais, c'est que depuis toute petite, j'ai toujours détesté qu'on m'enferme, moi, dans une identité. J'ai toujours détesté que les autres décident pour moi qui j'étais. Et donc, je suis toujours assez hostile à l'idée de mettre les gens dans des cases, évidemment, et de dire ben, les Ashkénazes sont comme ceci, les Séfarades sont comme cela, les Arabes sont comme ceci. Aujourd'hui, en Israël, le problème, c'est que je crois que plus personne ne sait très bien ce qu'est le projet commun de ce pays. Et il s'est construit avec quand même l'idée d'un projet commun très, très fort. Évidemment, il fallait créer un État juif. Et ça a porté deux, trois générations de pionniers et puis ensuite d'Israéliens. Et puis, depuis quelque temps, personne ne sait ce qu'est le projet commun. Alors, évidemment...
C'est-à-dire que le sionisme a disparu au profit de l'existence bien réelle de l'État.
Oui.
Et aujourd'hui, oui. Il n'y a pas de personnalité politique qui puisse indiquer un chemin vers un vivre ensemble.
Exactement. Deux personnalités politiques et deux partis. Parce que Israël étant, de surcroît, une démocratie parlementaire, c'est vraiment, même si les personnes comptent, bien sûr, c'est vraiment les partis et les projets de partis qui peuvent éventuellement entraîner derrière eux une partie de la population. Et le problème, je crois, mais c'est qu'Israël fait face à des défis qui sont très, très difficiles à relever. C'est-à-dire, en France, on ne sait pas non plus quel est notre projet commun. Et aujourd'hui, il y a tous ces débats sur l'identité nationale. Bon, ça peut être intéressant d'en discuter. Mais à la rigueur, la France se porte bien avec ou sans projet commun. Et que ce soit Ségolène Royal ou Nicolas Sarkozy qui soit à la tête de ce pays, ne change pas fondamentalement, je dis bien fondamentalement, le rapport que nous avons à des choses telles que la démocratie, notre système électoral, la laïcité, etc. Des questions fondamentales. En Israël, lorsque c'est la droite ou la gauche qui est au pouvoir, ça peut changer radicalement les choses. Ça peut entraîner une guerre ou pas. Ça a vraiment une implication directe sur la vie des gens, sur leur sécurité, sur leur quotidien. Et je crois que, oui, c'est quelque chose qui est très difficile à relever. Il faudrait en Israël des gens hors du commun qui puissent être... Je crois que voilà, j'en reviens, hein. Là, j'étais en Israël pour les repérages d'un film récemment. J'ai passé des journées à discuter avec des gens, à les écouter, à entendre tout et son contraire dans la même journée, entre Tel Aviv et Haïfa, entre Tel Aviv et Jérusalem. J'ai rencontré des gens comme Zruya Shalev, Aaron Appelfeld, Michal Govrin, et d'autres moins connus, qui tous se lèvent tous les matins en se posant des questions sur où va-t-on ? Où va ce pays ? Vers quoi va-t-il ? Et Israël, c'est un pays qui ne peut pas, je crois, se permettre de vivre en dehors de l'histoire. Et le défi qu'il a relevé aujourd'hui, c'est de savoir, non pas au nom de quoi il existe, moi je pense que cet État existe parce qu'il fallait un État juif et que des gens l'ont voulu, donc ça légitime l'État. C'est pas la question de sa légitimité qu'il doit se poser, mais du contenu de cette existence. Et le contenu est très difficile à trouver. Moi, je n'ai pas de réponse. Je crois que c'est très difficile d'avoir aujourd'hui un État juif et un sixième de sa population, je parle des Arabes israéliens ou des Palestiniens d'Israël, qui ne peuvent pas chanter la Tikva, qui ne peuvent pas dire « Odlo avda tikvatenu », notre espoir de 2000 ans ne s'est pas perdu. Ils ne peuvent pas chanter ça. Et c'est compliqué. Sans compter effectivement l'arrivée des Russes, qui n'avaient pas la même fibre juive que le reste des immigrants. Et donc, je n'ai absolument pas de réponse, mais je pense qu'il faudrait au moins qu'en Israël, parfois, les hommes politiques puissent poser les bonnes questions, en tout cas. Et je ne crois pas qu'ils le fassent toujours.
Comment avez-vous vécu la première intifada, Valérie Zenati ?
Ça a été un vrai choc pour moi, parce qu'en arrivant en Israël, donc, vous l'avez dit, j'avais 13 ans, je n'avais pas de connaissance particulière de la situation à ce moment-là. J'étais passionnée d'histoire. L'histoire fait vraiment partie de ce qui m'a construit avec la littérature. Mais je ne connaissais pas précisément la situation des territoires palestiniens au moment où je suis arrivée en Israël. Donc, dans mon esprit, pendant plusieurs années, déjà, il fallait que je prenne le temps d'apprendre la langue, de comprendre le monde qui m'entourait. Je pensais de façon assez naïve qu'il y avait une seule sorte de Palestiniens, c'était les Palestiniens israéliens. Et j'ai réellement découvert en 87, à 17 ans, que fin 87, avec l'intifada, qu'il y avait une partie des Palestiniens qui n'avaient pas les mêmes droits que les autres, évidemment. J'ai été très, très choquée par toutes les images de violence qui nous entouraient. Et déjà à l'époque, je me suis posé la question de savoir mais qui sont réellement ces gens ? Parce qu'en fait, j'ai compris que depuis 5 ans, je vivais dans ce pays sans avoir côtoyé les Palestiniens des territoires. Et un jour, j'ai décidé de prendre un bus pour rejoindre Jérusalem. Et c'est un bus qui traversait la Judée. Et à 10-15 km de Beersheba commençait ce qu'on appelle la Judée ou la Cisjordanie. Et là, il y avait ces villages palestiniens. Et j'ai vu que ces gens-là existaient tout près de chez moi. Je me suis beaucoup interrogée sur le fait qu'on vivait à côté, qu'on ne se connaissait pas. Ça a été fondateur pour moi, ce voyage, parce qu'on... Le bus a été caillassé, on a reçu des pierres. Et je me souviens très bien qu'à ce moment-là, j'ai vu un des garçons qui faisait tournoyer sa fronde. Et j'ai eu envie de lui dire à ce moment-là, mais pourquoi tu jettes cette pierre sur moi, puisque la pierre a atteint la vitre derrière laquelle j'étais. Je voulais lui dire, mais je pense comme toi, je pense que tu as le droit d'avoir un État. Et ce qui m'a fait mal à ce moment-là et qui a nourri aussi ensuite mon livre « Une bouteille dans la mer de Gaza », c'est que j'ai compris que pour lui, je n'étais pas moi, Valérie, qui espérais un État pour lui, mais j'étais une Israélienne et donc une ennemie. Et cette catégorie dans laquelle on est enfermé malgré soi en temps de guerre est très difficile à porter, je trouve. Être l'ennemi aux yeux de l'autre, quoi qu'on fasse, c'est très difficile à porter.
Alors ensuite, comme toutes les jeunes filles en Israël, Vous avez fait votre service militaire, vous en avez tiré un livre qui est à la fois extrêmement drôle, émouvant et en même temps passionnant par rapport à ce qui se passe dans la tête de tous ces jeunes qui en Israël passent par cette étape véritablement initiatique. Car quand on lit votre livre, on comprend que si on ne fait pas le service militaire, on ne peut pas parvenir à l'âge adulte. C'est un type d'apprentissage un peu particulier. Et en même temps, ben, quand on commence à faire son service militaire, on est quand même très jeune. Alors je lis un court extrait de votre livre « Quand j'étais soldate », 22-09-88, 23h15. J'écris à la lumière de ma montre, certaines filles gémissent en dormant, Kiren suce son pouce. Aujourd'hui, nous avons reçu nos armes, des pistolets mitrailleurs Uzi, c'est terrifiant. Nous encourons 7 ans de prison en cas de perte ou de vol. Nous devons les porter constamment sur nous ou les laisser attachés par un cadenas à notre lit. Et si quelqu'un vole le lit, point d'interrogation. Pour l'heure, nous avons appris les sommations d'usage. Si quelqu'un s'approche de nous lors d'une garde, il faut lui demander le mot de passe. S'il ne répond pas, lui dire d'une voix suffisamment forte « stop », puis « stop ou je tire » une deuxième fois. C'est incroyable, cette espèce de dichotomie entre l'innocence de ces jeunes filles et puis ce harnachement militaire et cet embrigadement et le frôlement de la mort.
Bien sûr, bien sûr. Et c'est pas une blague, c'est pas de la fiction, c'est la confrontation à 18 ans à une réalité qui est... très, très, très lourde. Mais en même temps, en Israël, évidemment, c'est quelque chose que tous les gens ont intégré et sur lequel, là non plus, il ne se pose pas beaucoup de questions. Faire l'armée est quelque chose de très banal. D'ailleurs, c'est drôle parce que souvent, on me demande si « Quand j'étais soldate » a été traduit en Israël. Et bien évidemment pas, ça n'intéresse pas les Israéliens de lire ce livre parce qu'ils ils ont tous vécu ça et c'est une expérience, pour le coup, collective qui est très banale pour eux. Et en même temps, je pense que, de par ma position, j'ai quand même un peu pris de distance et je me suis aperçue à quel point dans une société occidentale, parce que malgré tout, Israël fait partie de la société occidentale, en partie en tout cas, avoir 18 ans et se retrouver dans cet espace qui est tout sauf un espace de liberté, alors que 18 ans, partout ailleurs, c'est l'âge où on prend, où on peut commencer à faire ses choix et à les assumer, c'est pas banal. Avoir de telles responsabilités, tenir une arme entre ses mains, avoir la possibilité de tirer sur quelqu'un, c'est pas banal. Quand on est, comme moi je l'étais, dans les écoutes, et qu'on vous dit au premier cours, vous êtes responsable de la sécurité de vos parents, de vos cousins, de vos petits frères, de vos petites sœurs, c'est pas banal. Et cette position dans laquelle on se retrouve du jour au lendemain, mais vraiment du jour au lendemain, moi c'est ce qui m'a frappée, et c'est vraiment la raison pour laquelle j'ai écrit ce livre, c'est que je peux dater précisément le jour où j'ai quitté l'enfance. C'est le 24 août 1983, quand je suis partie en Israël. Et je peux dater le jour où j'ai quitté l'adolescence, c'est le 19 septembre 1988, le jour où je suis partie à l'armée. Et ce jour-là, j'ai revêtu l'uniforme avec la sensation d'être ridicule. J'avais l'impression que dans la rue, on allait me montrer du doigt en disant « elle s'est déguisée ». Parce que c'était aberrant de porter un uniforme. Et en même temps, je l'avoue, et ce n'est pas du tout une apologie de l'armée, ou de quoi, encore moins de la guerre, mais il y a quelque chose d'excitant à se retrouver, surtout lorsqu'on est une fille, dans quand même cette situation d'égalité avec les garçons. Et c'est vrai que je pense que l'armée peut permettre aussi d'accéder à une certaine forme d'indépendance, et même, encore une fois, peut-être de prétendre à une certaine égalité avec les garçons. C'est un lieu où c'est possible, en tout cas, et où les filles peuvent prouver certaines choses qu'elles ne prouvent pas toujours dans le civil.
Nous allons écouter la voix de Aaron Appelfeld au micro de Kathleen Evin à propos de l'élaboration de son œuvre et à propos de l'hébreu.
Ani bati arza b'arba'im v'shesh bli haskala. אני סיימתי בבית כיתה א'. הבאתי עימי ניסיון חיים של אדם מבוגר. וניסיתי לחבר את הניסיון הקשה הזה שאירה באירופה אל השפה היהודית העתיקה.
Je suis venue en Israël en 46, en 1946, sans éducation, sans aucune éducation. J'avais à peine achevé le cours préparatoire. Et en même temps, j'apportais avec moi l'expérience de vie d'un adulte. Alors j'ai essayé de relier cette terrible expérience que j'avais vécue en Europe avec la langue hébraïque antique.
Ani avarti nisayon apokalipti. Ve hasafa ha'ivrit. הלמה את הניסיון הזה. השפה היא נזירית מאוד. אין בה כמעט שמות תואר. אין בה תיאורים. יש בה עובדות ובלי שום קישוטים.
J'ai vécu une expérience apocalyptique et l'hébreu a transcendé cette expérience. C'est une langue austère, dépouillée d'adjectifs, de descriptions. Elle se concentre principalement sur les faits. Elle dit les faits.
Alors nous venons d'entendre la voix d'Aaron Appelfeld. On aura reconnu votre traduction, Valérie Zenati. Et dans « Mensonge », vous écrivez ceci. « J'ai 34 ans, je suis mère de deux enfants. » 10 ans plus tôt, j'ai passé 5 minutes en tête-à-tête avec François Mitterrand sans être trop intimidée. J'ai connu à ma manière quelques guerres. Mais à cet instant, c'est-à-dire le moment où vous allez rencontrer Aaron Appelfeld, je suis une femme à la voix mal assurée qui malaxe et frotte ses mains l'une contre l'autre sous la table et ne sait que dire parce que c'est la première fois qu'elle se trouve face à l'homme qui l'impressionne le plus au monde.
Oui. Oui.
Dans le parcours d'écriture, j'ai l'impression que cette rencontre, cette traduction puisque vous avez traduit tous les livres de Aaron Appelfeld en français, ont contribué à forger votre propre voix, dans les deux sens du terme d'ailleurs.
Oui, certainement, parce que il est vrai que j'écrivais avant de commencer à traduire Aaron Appelfeld, mais le côtoiement avec à la fois son œuvre et ce que lui peut en dire m'a permis, je crois, d'aller plus loin. À la fois parce que c'est quelqu'un qui a une vraie réflexion sur la langue, comme je n'en avais jamais rencontré jusque-là, on vient de l'entendre, et aussi un regard sur les sources de la littérature qui m'a peut-être fait gagner du temps.
Il y a peut-être aussi une forte influence, peut-être pas tout à fait consciente, de l'oralité. Parce que dans les livres d'Appelfeld, c'est quelque chose qui sort du plus profond de soi. C'est quelque chose qui n'a pas été exprimé par écrit. Il y a quelque chose qui sort comme d'une grotte, comme d'une caverne. Et dans Jacob aussi.
Oui, je crois que ce qui nous rassemble peut-être, ce qui nous rapproche à René et moi, c'est une enfance durant laquelle, à notre manière, hein, de manière très différente l'un et l'autre, nous avons capté des mouvements qui nous ont bouleversés et sur lesquels on ne pouvait pas mettre de mots. Donc pour Aaron, ça a été clairement la Seconde Guerre mondiale, telle qu'il a vécu, mais aussi sa perception de la vie plus globale, de l'amour, des êtres, de ses parents, des brigands avec lesquels il a été. Et pour moi, ça a été la perception de l'histoire à travers, donc pas telle que je la vivais, mais telle qu'elle m'avait précédée, à travers la guerre d'Algérie, que mes parents ont vécu et sur laquelle on mettait peu de mots, mais dont les soubresauts m'ont atteint. Et puis à travers la Seconde Guerre mondiale, que je n'avais pas vécu là non plus, mais qui a été, dans les années 70, finalement, un sujet qui s'est emparé de nous et dont je me suis emparée aussi enfant. Là aussi, sans pouvoir mettre deux mots, et peut-être que toute une vie ne suffira pas, mais en tout cas, on essaye tout de même d'en faire quelque chose pour approcher à la fois l'effroi et l'étonnement qui peut saisir un enfant quand il prend conscience de ce qu'a pu être cette période-là.
Dans « Mensonges », vous écrivez à la fois en utilisant des procédés de fiction, mais aussi de l'autobiographie. Et le tout est mélangé, et puis c'est au lecteur de décider ce qui est vrai de ce qui ne l'est pas, peu importe d'ailleurs. Et dans Jacob, j'ai l'impression aussi qu'il y a la restitution de ce personnage Jacob qui fait partie de la généalogie familiale. et dont vous avez vraiment l'envie, le désir de nous le restituer parce qu'il n'a jamais eu d'histoire et que vous, en tant qu'écrivain, vous allez contribuer à lui forger une individualité, mais on ne sait pas si tout est vrai et si vous avez inventé.
Alors, il y a un terme que j'ai forgé au moment de la sortie de Mensonges, qui déroutait. C'est un livre qui a dérouté quelque peu les lecteurs parce qu'ils ne savaient pas justement dans quelle catégorie le ranger. Récit, nouvelle, roman, essai. Les gens ne comprenaient pas très bien. Et moi, j'ai considéré que c'était ce que j'appelle une intra-fiction. C'est-à-dire aussi bien Mensonges. Et surtout, la dernière partie de Mensonge, où je mets en scène deux enfants dans la forêt, qui sont deux projections d'Aaron et moi. Aussi bien Mensonge que Jacob, qui fait revivre ou vivre ce jeune homme qui a eu une vie trop brève et qui n'a pas laissé de traces. Ce sont des histoires que je n'ai pas vécues, qui ne font pas partie de mon autobiographie, et qui, en même temps, font partie de moi. J'ai l'impression que je l'ai porté et que la seule façon de pouvoir approcher ma relation avec Aaron Appelfeld dans Mensonge et puis cette filiation avec la génération qui m'a précédée dans Jacob, la seule façon d'approcher cela, c'est d'inventer une fiction, de raconter une histoire que je n'ai pas vécue et que pourtant je porte en moi.
Justement, on parlait de voix immémorielle et chez vous, dans ce dernier livre, Jacob, on ne sait pas d'où ça vient. Mais ce qu'on sait, c'est que nous, lecteurs, on est emportés par votre écriture qui est à la fois une sorte de chant lyrique, très sensoriel, très sensuel, très géographique, très méticuleux. Et en même temps, cette écriture qui bat, qui s'emporte, qui s'enfièvre, etc. Je vais en donner un tout petit exemple en prenant à dessin une phrase au milieu, parce qu'au fond, la ponctuation n'a pas tellement d'importance. On est emporté dans un fleuve quand on vous lit, Valérie Zenati. Le temps du monde, bien plus vaste que le sien, point. Il aime aussi nager à la piscine olympique ou dans les gorges, alternant la bandaison de ses muscles et leur détente jusqu'à ne plus les sentir, jusqu'à ne plus avoir conscience qu'il est un corps d'homme dans une étendue liquide, devenant lui-même eau, souplesse, écume, point. Il lui est arrivé d'aller à la piscine pour draguer des filles comme tout le monde, de leur offrir un crêponné, une limonade, ou de monter sur le grand plongeoir en ignorant les regards qu'il savait poser sur lui, guettant la figure parfaite de la flèche humaine dans les airs. Mais plus que tout, c'est la sensation de l'eau sur la peau qui l'enivre, comme la musique, qu'elle soit portée par le martèlement des darboukas et le chant des violons lorsqu'elle est arabo-andalouse, ou soutenue par les trompettes, les pianos, les guitares des chansons françaises, etc. Comment s'élaborent vos phrases ?
Alors, je suis très, très heureuse que vous ayez choisi ce passage, parce que s'il y a bien une phrase à laquelle je tiens plus que tout dans ce roman, c'est quand Jacob est au-dessus du fleuve, et vous avez commencé par ça, c'est peut-être Dieu, le temps du monde, bien plus vaste que le sien. Et je crois que ce qui s'est produit avec l'écriture de ce livre, c'est le lien fabuleux que j'ai pu faire avec ce qui m'a précédé.
Finalement, ça veut dire qu'on a la mémoire d'une généalogie familiale inconnue de vous.
Exactement, exactement. Je crois qu'on est traversé. Une vie, c'est pas...
Jacob, c'est votre grand-oncle, hein, faut le préciser.
Tout à fait. Alors je dis souvent, à la fois d'un point de vue généalogique, c'est mon grand-oncle, et puis en même temps, il n'a pas du tout eu le temps de l'être. Ça ne peut pas être un grand-oncle parce qu'il est mort à 19 ans et il a eu une vie bien trop brève pour pouvoir atteindre ce statut un peu trop respectable même du grand-oncle. Jacob restera un jeune homme dont la vie est encadrée par deux dates qui sont bien trop rapprochées. C'est 1926-1945, point. C'est beaucoup trop proche pour pouvoir dire ce qu'est la vie d'un homme, pour pouvoir aborder les questions que la vie nous pose et pour pouvoir tout simplement laisser une trace et construire quelque chose. Donc, ce qui m'a hanté pendant l'écriture de ce livre, c'est finalement la question de savoir si nos vies peuvent se résumer à ça, à la date d'entrée et de sortie, ou s'il n'y a pas moyen de faire exploser ces limites et de nous relier à ce qui nous précède et aussi peut-être à ce qui va suivre. Et donc, dans le mouvement qui m'a guidée vers Jacob, il y a eu ce que vous décrivez comme un torrent ou un flot, parce que je ne voulais pas en faire un livre du passé, un livre qui raconterait une histoire qui s'est déroulée il y a longtemps et que moi, aujourd'hui, je décide de raconter. Non, je voulais me relier à cette histoire et ce lien direct que j'ai pu avoir avec Jacob, avec son temps, avec les combats dans lesquels il a été pris, avec ce qu'il a découvert peut-être, certainement, quand il est arrivé en France en 1944, dans ce débarquement de Provence, la seule chose qui pouvait me relier, c'était la langue. Une langue qui serait comme un lien ombilical, charriant à la fois de l'oxygène, de l'eau, des mots qui seraient extrêmement libres. C'est pour ça que la ponctuation semble peut-être anarchique dans ce livre. C'est parce que j'ai voulu être dans une liberté totale de langue pour pouvoir m'approcher de quelqu'un qui a été soustrait à sa famille, brutalement, que plus personne n'a jamais revu vivant, et qui a été aussi soustrait à sa propre vie, tout simplement. Voilà, Jacob, un jour, est devenu un jouet entre les mains d'une armée, un jouet entre les mains de l'histoire, et il n'a plus de pouvoir de décision, il n'a plus pu envisager l'avenir.
Il a été obligé de ne plus aller à l'école parce que c'était interdit, parce qu'il était juif. Est-ce que vous réussissez aussi, avec une grande maîtrise et une grande subtilité, Valérie Zanetti, dans cet ouvrage Jacob, Jacob, sa vie fut si brève et pourtant toute l'histoire y est. Comme il est juif, il ne peut plus continuer à aller à l'école, parce que oui, nous sommes en Algérie, c'est-à-dire en France. Il est donc incorporé dans un régiment et fait partie, parce qu'il est juif, d'un régiment qui est en première ligne et donc il va être tué.
Oui, Jacob est là aussi traversé. Finalement, je crois que c'est ça une vie. On a l'impression de décider de certaines choses et de maîtriser la construction de nos vies, en partie en tout cas, alors qu'on est peut-être durant le temps durant le temps qui nous a imparti, on est surtout traversé par l'histoire, très souvent, par des mouvements qui nous dépassent. Et Jacob est traversé par ce statut étrange d'être juif. Être juif en Algérie signifie devenir français à la fin du 19e siècle. C'est très troublant de devenir français parce qu'on est juif. Et puis dans les années 40, être juif signifie cesser d'être français. Ça, ce ne sont pas des décisions, ce ne sont pas des questions identitaires, ce ne sont pas des choix. Ce sont des statuts imposés par l'extérieur, mais qui vont déterminer de la vie et de la mort, qui vont déterminer du fait que Jacob va à l'école, que Jacob va être en contact avec les auteurs français, que Jacob, grâce à l'histoire, à la littérature, va pouvoir élargir le champ de sa propre vie, parce que il est là à Constantine, dans une famille pauvre, repliée sur elle-même, où la loi patriarcale se perpétue, et lui, grâce au livre, va pouvoir envisager autre chose, donc élargir les contours de sa vie. Et puis, brutalement, en 1941, Vichy décrète que les Juifs ne sont plus français. Et là, l'horizon se rétrécit avant de s'élargir de nouveau. Dans tous ces mouvements-là, Jacob n'est pas décisionnaire. Il est porté par quelque chose qui est en train de... qui est très propre au XXe siècle, je crois, qui est en train de naître, c'est l'obligation de se définir par rapport à une appartenance.
Alors justement, dans ce régiment, Jacob va se retrouver avec des camarades de Constantine qui, eux, sont nés arabes. Et là aussi, vous décrivez magnifiquement cette espèce de sentiment bizarre qui ne sait pas vraiment comment identifier tel ou tel. Au début, Jacob fait des blagues sur... le physique, sur le comportement de ses camarades arabes. Et puis après, il dit « mais non, ce n'est que pour blaguer, etc. » Et puis la communauté du régiment va à ce moment-là s'instituer pour nous montrer à nous lecteurs qu'il s'agit bien d'une communauté.
Oui, c'est une communauté. Ce sont
à la vie, à la mort, pour le coup.
Oui, ce sont des frères d'armes. Ce sont des garçons qui vont quitter un paysage qui leur est familier pour débarquer dans une Europe...
Et qui n'ont rien en commun.
Rien.
Et que la guerre va rapprocher, hélas.
Oui, parce qu'en quelques mois, ils font l'apprentissage de tellement de choses. De la peur, de la mort, des blessures, de l'humiliation parfois d'être un soldat qui a peur et qui tremble avant les combats. Et aussi, ils vont découvrir ensemble cette France qui les fait tant rêver, où ils sont accueillis en héros. Et ils ont cette fierté-là d'être des héros. Ce sont des choses qu'on partage et qui unissent, je crois, d'une manière très très forte.
Je vois Jacob, comme de nombreux lecteurs,
Alors que par définition, il n'y a pas de photographie dans votre livre. Vous contribuez à nous le faire imaginer dans notre tête. Et puis vous terminez votre livre d'une manière très singulière, qui, je pense, doit être le reflet de la réalité, elle, bien historique et historiographique. C'est-à-dire que la famille de Jacob a dû attendre 3 ans pour pouvoir l'enterrer.
Oui, ça, c'est un des drames dans le drame de cette histoire. Jacob étant mort alors que la Seconde Guerre mondiale n'était pas encore terminée, il a été enterré en Alsace. Et puis, la famille a demandé à récupérer le corps et il a pu être enterré de nouveau 3 ans plus tard à Constantine, en Algérie, près des siens. Ce qui m'a troublée dans son histoire, c'est que finalement, moi, je suis faite de ce corps à corps entre l'Algérie et la France. Ce sont mes racines, c'est l'histoire de mes parents, c'est la mienne aussi. Et Jacob incarne ce corps à corps dans sa vie. Et dans sa mort aussi. Dans sa vie, il a été le premier à franchir la Méditerranée, à quitter l'Algérie pour venir en France. Et il est celui qui, dans sa mort, va de nouveau franchir la Méditerranée pour retourner en Algérie. Et ce qui est troublant dans ses allers-retours, c'est que finalement, il est ramené en Algérie pour être enterré près des siens. Et puis, eux vont devoir de nouveau quitter ce lieu. Et lui va rester seul là-bas, dans ce cimetière, où son nom n'est plus inscrit, parce que... je n'ai pas retrouvé sa tombe. Et ce qui m'a frappé quand j'ai repensé au titre, à Jacob, Jacob, c'est que finalement, j'ai inscrit 2 fois son prénom pour quelqu'un qui a été enterré à 2 reprises, mais qui a son nom nulle part, ni en Alsace, ni en Algérie. Et il y avait peut-être cette obligation pour moi d'inscrire 2 fois son nom.
Vous acceptez qu'on se quitte par la lecture du début de votre texte, Jacob, Jacob ?
Volontiers. Un désir confus et violent l'amenait là, au sommet de la montagne rocheuse, dans la poussière maculée de fientes d'oiseaux, parmi les cèdres et les cyprès noirs qui accrochent le regard, le retiennent une poignée de secondes avant de le libérer vers la plaine écrasée de soleil. À cette distance, les cascades paraissent immobiles, voile mousseux peint dans l'unique but de souligner les saignées qui courent le long des gorges. En surplomb, les falaises accueillent dans leurs flancs des massifs de figues de Barbarie, puis s'élève dans une nudité totale. La roche a été brusquement coupée ici par une lame mystérieuse et s'étage en tranches brunes. Encore un mouvement du visage et ses yeux distinguent le pont. Trait d'union solide suspendu entre 2 pylônes de pierre blanche, il confère à la ville son caractère de forteresse, la reliant à l'hôpital et un peu plus loin à la gare, au monument aux morts et au cimetière. Jacob jette un coup d'œil à la montre reçue pour cette raison.
Merci Valérie Zenati.
Merci beaucoup à vous.
Donc tous vos livres sont publiés aux éditions de l'Olivier et le dernier s'intitule Jacob, Jacob. Merci à toute l'équipe de Hors-Champ, Élodie Royer, Corinne Amar, Vincent Lecomte, Jean-Michel Bernaud et Anne Kobilac. Vous écoutez France Culture dans quelques secondes, les ateliers de la nuit.